Je vous parlais donc de la Torah orale dans le Pentateuque. Vous savez que la vision, j'en avais parlé ce matin, la vision historico-critique traditionnelle de la composition du Pentateuque part de l'idée que, en ce qui concerne notamment les matériaux narratifs, il y avait d'abord les traditions orales qui ensuite ont été mises par écrit et rédigées, révisées en plusieurs étapes. Alors, contrairement à ce modèle, qui envisage donc une évolution de l'écrit à l'oral, la tradition juive défend, au moins sur le plan théorique, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, l'idée d'une concomitance en affirmant que Yahvé aurait donné à Moïse au Sinaï non seulement une Torah écrite, donc le Pentateuque, voilà. Et puis aussi, à côté du Pentateuque écrite, une Torah orale, une loi orale. Cette idée est une Torah orale et sans doute assez ancienne, parce qu'elle se reflète déjà dans le Nouveau Testament, par exemple, dans les conflits entre les pharisiens, très ouverts à des nouvelles interprétations, voire à des nouvelles lois, et les sadduciens, qui n'acceptent que le texte écrit de la Torah. L'idée donc que Moïse aurait reçu sur le Pentateuque deux lois, deux taurotes, est expliquée dans la tradition juive à l'aide de certains versets du Pentateuque, comme par exemple Exode 24, où on a 12, donc on a cette idée. Yahvé dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là pour que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Donc là, dans la tradition juive, on dit qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la loi et j'ai écrit. Ça, c'est la Torah ou le Tanakh, toute la Bible. Et de l'autre côté, on parle du commandement et pour les enseigner, là, ce sera l'interprétation orale de la Torah. Ça, c'est une idée qu'on se trouve dans le Pentateuque, où on peut encore citer avec Maïmonide, Lévitique 26, « Ceux-ci sont les décrets, les coutumes et les lois que Yahvé a établies entre lui-même et les fils d'Israël sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. » Donc là, le pluriel « loi », donc « torot », est expliqué par Maïmonide dans le sens que ça se réfère à plusieurs lois. Donc la loi écrite des prêtres, dont il est question dans le Deutéronome, et la loi qui était donnée aux sages ou au peuple. Et encore un autre texte, mais c'est toujours la même idée. Vous avez toutes les paroles et toutes les règles en ce texte. Et finalement, après, on dit que Moïse écrivit toutes les paroles, mais il n'écrit pas les règles. Donc, la tradition juive en déduit, en fait, qu'il y a deux unités. Je ne pense pas que ce soit le sens premier de ce texte. C'est certainement une interprétation assez forcée des textes bibliques qui utilisent plutôt le parallélisme des membres. Néanmoins, il me semble que ce concept d'une Torah orale s'explique très tôt, en fait, par la nécessité de corriger et de compléter différentes traditions qui se trouvent à l'intérieur du Pentateuque. Donc, dans ce que va suivre, j'aimerais montrer à l'aide de quelques exemples que cette idée d'une oralité de la loi se fait jour au moment même de la compilation des différents ensembles qui vont constituer le Pentateuque. Donc la thèse que je veux défendre ici, c'est que la mise par écrit et la mise ensemble des traditions du Pentateuque suscitent immédiatement des stratégies d'actualisation et de commentaires. Donc c'est un peu de compliquer la relation entre oral et écrit. Une fois n'est pas coutume, je vais d'abord lire le Pentateuque d'une manière synchronique, telle que nous l'avons. Et quand on fait cela, on trouve la première référence à un texte écrit très vite après l'histoire de la création et de la chute et de Caïn et Abel, au début du chapitre 5, où on a donc cette idée ici, Ze Sefer Toldot, Adam Beyom Bara Elohim, Adam Bidmoud Elohim Asa Oto. Donc, ce rouleau, je vais le traduire tout de suite, mais je vous ai mis l'hébreu quand même parce que ce n'est pas facile à traduire. Donc, c'est un livre qui contient des Toledot et on traduit souvent « Voici le livre de la généalogie d'Adam, le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu » ou quelque chose de similaire dans la Tobe. Cependant, on pourra aussi traduire « Voici les livres des engendrements d'Adam au jour où Dieu créa Adam à la ressemblance de Dieu et le fit. » On aura alors ici l'idée que ce support écrit existe déjà au moment de la création et que c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Une idée qu'on va rencontrer dans la péricope du Sinaï. On va également trouver des allusions à un dieu scribe ou un dieu écrivain. Lors du séjour de Moïse au Sinaï, ça lui devient en quelque sorte, en même temps que Dieu, scribe de la Torah. Mais l'installation de cette fonction est cependant racontée bien avant, immédiatement après la traversée de la mer, au moment où les Hébreux doivent affronter les premières difficultés dans le désert. C'est un texte qui se trouve au chapitre 17 du livre de l'Exode. Je ne sais pas si vous avez tous votre Bible dans la tête, dans le cœur ou dans l'ordinateur. Voilà, donc je résume ce texte. C'est le premier récit d'une guerre contre Amalek, dont personne ne sait trop qui c'est Amalek. Et donc Amalek va être battu grâce à différentes stratégies. Vous connaissez surtout l'histoire des mains de Moïse qui sont là pour bénir et qui doivent être supportées par deux acolytes, mais aussi parce que Josué donc y est introduit comme étant en fait le premier chef de guerre qui va donc prendre ici la même fonction qu'il a en fait ensuite dans le livre de Josué. Si on regarde attentivement le texte, je reviendrai encore une fois sur ce texte. Ceux qui suivent mes cours ont l'habitude. Si vous enlevez le verset 14, vous passez beaucoup plus facilement du verset 13 au verset 15, à savoir donc l'idée que Amalek est vaincu, et à la suite de cela, en fait, Moïse bâtit un autel, lui donna le nom Yahvé et mon étendard. Donc ça marche beaucoup mieux. On ne voit pas très bien ce que fait cette histoire du livre à l'intérieur de ce texte. Donc, la question, en effet, c'est pourquoi a-t-on introduit ce passage sur l'origine du livre et de l'écriture. D'ailleurs, on présuppose que Moïse sait écrire. On ne raconte pas dans la Bible où Moïse a appris l'écriture. En Égypte, peut-être, mais est-ce qu'il aura écrit hébreu, du coup, on ne sait pas. Ça, c'est notre question. Bon, alors, donc, en Genèse 17, la guerre contre Amalek sera gagnée, mais néanmoins, on observe une particularité. On ne dit pas que Josué donc, détruit Amalek, il ne le tue pas, il affaiblit Amalek, alors qu'il l'a quand même vaincu. Alors pourquoi ? Sans doute parce que l'auteur connaît les traditions de guerre de Saül et de David contre Amalek, et du coup, Amalek ne peut être battu définitivement, parce qu'autrement, l'histoire ne peut continuer. Donc, il doit encore servir Amalek dans la suite comme ennemi exemplaire d'Israël. Donc, Moïse reçoit l'ordre d'écrire, ordre qui prépare une tâche importante de Moïse dans la suite. Ici, en Exode 17, la fonction du livre et de l'écriture et de susciter le souvenir, Zikaron. Ce livre doit devenir le fondement d'une histoire collective, commençant avec les exploits de Moïse. Et en même temps, comme en Josué 1, le premier destinataire de ce livre, c'est Josué. Josué, le chef de guerre, devient ici déjà lecteur ou destinataire du livre, comme au début du livre de Josué, où il est dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, etc. Le thème, et c'est là où maintenant ça se complique un peu, le thème de l'éradication d'Amalek se trouve encore à la fin du Pentateuque, au chapitre 25 du livre du Deutéronome. Souviens-toi ce qu'Amalek t'a fait en chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte, comment il est venu à ta rencontre en chemin pour attaquer ton arrière-garde. Tu étais fatigué, épuisé, et cela parce qu'il ne craignait pas Dieu. Alors quand Yahvé, ton Dieu, t'accordera le repos face à tous tes ennemis d'alentour, dans le pays que Yahvé, ton Dieu, te donne, pour le posséder, tu effaceras sous le ciel la mémoire d'Amalek. Tu n'oublieras pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Évidemment, on peut dire que ce texte se réfère à l'épisode que nous avons vu en Exode 17, mais tout en le transformant d'une manière significative. D'abord, il insiste sur l'attaque mesquine d'Amalek, sur son manque de crainte de Dieu, raconte aussi comment Israël était fatigué. Tout ça, c'est des éléments qui ne se trouvent pas dans le récit du livre de l'Exode. Mais ce qui frappe surtout, c'est la différence entre le contenu à mettre dans le livre en Exode 17, qui établit Yahvé comme auteur de l'effacement de la mémoire d'Amalek, et ici le commandement du Deutéronome qui transfère ce tâche au destinataire du discours mosaïque. De plus, ce texte donne les raisons pour lesquelles il faut exterminer Amalek, raisons qui ne sont pas explicitées en Exode 17. Ainsi donc, le texte du Deutéronome se présente déjà comme un commentaire ou une interprétation d'Exode 17. Dans la structure du Pentateuque, et je reviendrai dans un moment, le Deutéronome, le dernier livre, apparaît comme un commentaire des narrations et des textes législatifs précédents. Le Deutéronome se présente comme un discours de Moïse et souligne ainsi l'oralité des prescriptions qui s'y trouvent. À la fin du livre, cependant, les références à l'écriture se multiplient et montrent que le livre qui, dans le contexte du Deutéronome, se référait peut-être d'abord au livre du Deutéronome seul, construit maintenant une référence à toute la Torah et possède une autorité non seulement normative, mais aussi interprétatif. D'une certaine manière, cela reflète la transformation de la Torah orale en une Torah écrite. Ça veut dire que le Deutéronome devient aussi une grille d'interprétation pour l'histoire qui se trouve dans les livres qui vont suivre Josué et Aroi. Et la référence à Deutéronome 25, maintenant, explique dans les livres de Samuel le rejet de Saül par Yahvé. Saül, en effet, est rejeté selon la parole de Samuel parce qu'il n'a pas exterminé Amalek. C'est une des raisons qui est donnée pour le choix de David au détriment de Saül, puisque David est celui qui, en effet, obéit au commandement divin. Donc ici, le passage de Deutéronome 25 auquel ce texte renvoie est caractérisé comme parole de Yahvé. Donc voyez comment, en fait, vous avez trois étapes d'une certaine manière. Vous avez ce texte d'Exode 17, une première interprétation de Deutéronome 25, qui finalement est réinterprétée encore une fois dans ce récit de la réjection, du rejet de Saül par Yahvé. Moïse, scribe, lecteur et interprète. En Exode 17, Moïse a été établi scribe d'un livre. Comme je vous ai dit, on ne sait pas d'où il a ses capacités de lire et d'écrire. On présuppose qu'il sait écrire. Et la mention suivante du livre, qui se trouve au chapitre 24, fait de lui son premier lecteur dans le sens où il lit les paroles du livre, paroles qu'il a lui-même d'abord mises par écrit au peuple rassemblé au Sinaï, anticipant ainsi d'une certaine manière la lecture publique de la loi par Esdras. Donc verset 4, Moïse écrivait toutes les paroles de Yahvé, je déjà parle de ce texte, il prit le livre de l'Alliance et l'a lu au peuple. Ici, le rouleau, le livre, s'appelle le Sefer HaBerit, le livre de l'Alliance, du contrat, se réfère sans doute à la première collection législative du Pentateuque, le Code d'Alliance. Moïse est ici investi d'une autorité royale sans jamais devenir roi, mais il assume dans le Pentateuque une fonction classiquement royale. Il devient le médiateur par excellence entre le peuple et son Dieu. Il lui transmet les volontés divines qui se concrétisent dans les lois respectées. Sur le plan narratif, cette médiation est mise en place suite à une demande du peuple qui ne peut supporter la révélation divine d'une manière directe. Et donc toutes les prescriptions que Yahvé va transmettre à Israël sont donc d'abord communiquées à Moïse, qui est chargé de les transmettre à Israël. Or, cette médiation mosaïque est d'abord présentée comme une médiation scripturaire, à l'aide d'un séfer. Il existe dans le Pentateuque une concurrence entre écriture divine et écriture mosaïque. C'est le décalogue ou le code d'alliance qui sont présentés comme ayant été écrits par Yahvé même, alors qu'on donne deux fois à Moïse le même rôle, donc notamment le rouleau qui est appelé livre d'alliance. Donc cette confusion sert d'une certaine manière à renforcer l'autorité de Moïse, qui à plusieurs reprises est ainsi rapproché de Yahvé. Mais dans la structure globale du Pentateuque, Moïse ne sera pas seulement scribe et lecteur de la loi, il sera aussi son premier interprète. Pour les compilateurs de la Torah du Pentateuque se pose en effet un grand problème. Au moment où on met tous ces livres ensemble, en fait, vous avez deux grands ensembles législatifs. Vous avez la révélation au Sinaï, qui commence avec le Code d'Alliance et qui va en fait jusqu'au début du Livre des Nombres. Et de l'autre côté, vous avez le Code qui se trouve dans le Deutéronome. Le Code deutéronomique comporte un certain nombre des lois parallèles au Code d'Alliance, mais aussi à la législation sacerdotale, comme la Pâque ou la liste des animaux purs. Évidemment, sur le plan diachronique, ça s'explique par le fait que le Deutéronome a d'abord été conçu pour servir de grille de lecture au livre suivant, livre de Josué à roi, alors que le Code d'Alliance avait été introduit dans le récit de la révélation au Sinaï comme fondement de la Torah que Yahvé, par l'intermédiaire de Moïse, avait conclu avec Israël, Exode 24. Mais au moment où le Deutéronome fut détaché des livres suivants pour les mettre avec les livres précédents, donc les livres de Genèse à Nombre, se pose le problème de corréler des collections de lois qui étaient semblables, mais parfois contradictoires. Alors comment Dieu peut-il se contredire? Les rois peuvent aussi se contredire, mais ils ne se contredisent quand même jamais. Donc il faut trouver une solution. Alors, la solution qui a été trouvée, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, une première solution, c'est de mettre le décalogue en deux versions, en Exode 20 et en Deutéronome 5, devant les deux grandes collections de lois, suggérant ainsi que le décalogue résume les deux collections. Et comme c'est plus ou moins le même décalogue, ce sont donc plus ou moins les mêmes lois. Donc les lois qui suivent dans les deux cales décalogue peuvent être ainsi comprises de façon parallèle. Mais il existe une autre stratégie qui, au début du Deutéronome, transforme Moïse en interprète de la loi. Et c'est ce texte, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, au-delà du Jourdain, au désert, au-delà du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse se met à leur, ça c'est le problème, interpréter, expliquer cette loi de la manière suivante. Cette loi, qu'est-ce que c'est cette loi? Ça ne peut être en fait, si on lit les choses telles qu'elles se présentent à nous maintenant, la loi précédente, la loi qui se trouve dans les livres de l'Exode et du Lévitique. La racine Be'er, qu'on fait souvent dériver de l'acadien Barou, je ne sais pas si les assyriologues sont d'accord, ils me le diront après, est très rare à l'intérieur de la Bible. En fait, on l'a que deux autres fois. Je ne vais pas aller dans le détail. Ce qui est intéressant dans ces deux autres parallèles, on a toujours aussi l'ABR, et je ne suis pas content avec les traductions qui sont proposées dans les Bibles, on a toujours BR en lien avec Kataf, avec l'écriture. Il y a quelque chose qui est écrit, et après elle dit « il faut BR ». Alors après on dit « il faut se dépêcher », mais je ne crois pas, c'est-à-dire il faut interpréter. Une fois où quelque chose est écrit, il faut l'interpréter. Mais revenons à Deutéronome 1, où la situation est intéressante. Donc ce verset, qui est souvent attribué à une des dernières retouches du Deutéronome, le livre du Deutéronome, qui évidemment est un texte écrit, est néanmoins présenté comme une Torah orale, comme l'interprétation de la révélation du Sinaï consignée dans les livres précédents. Les différences entre les deux ensembles législatifs sont dans la construction finale de la Torah, du Pentateuque, donc expliquée par l'idée selon laquelle les textes du Deutéronome seraient à comprendre comme l'interprétation orale de Moïse qui apparaît ici comme le précurseur des rabbins. Moïse est ici une sorte de proto-rabbin. Et à la fin du Deutéronome, cette interprétation orale est mise par écrit. Et c'est exactement, comme vous le savez, arrivé aussi dans le judaïsme avec la Torah orale, qui en fait est aussi une Torah écrite, puisque c'est le Talmud qui la contient. L'idée des derniers éditeurs du Pentateuque est donc que le Deutéronome fonctionne comme une interprétation de Moïse des lois précédentes. Alors prenons juste un exemple pour illustrer cette logique. Le code d'alliance, donc en Exode 20 à 23, et le code deutéronomique débutent tous les deux par une loi sur les autels et le sanctuaire. En Exode 20, on a « C'est ton autel de terre, etc., que tu construiras. En tout lieu où je ferai qu'on se souvienne de mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. » En Deutéronome 12, on a fait attention à ne pas faire monter tes holocaustes en tout lieu que tu verras. C'est seulement au lieu que Yahvé choisira dans une de tes tribus, là tu feras monter tes holocaustes. Donc, si on compare ces deux textes, on a d'abord l'impression que c'est une contradiction. D'un côté, on a tous les lieux qu'il y avait choisis, et l'autre dit que c'est un seul lieu. Alors, est-ce une contradiction? Pas forcément. Dans la logique des derniers rédacteurs du Pentateuque, il faut comprendre les choses différemment. À la lumière de Deutéronome 12, le tout lieu d'Exode 20-24 peut seulement être le lieu que Yahvé choisira. C'est donc l'idée du sanctuaire unique qui semble l'emporter à la fin, un seul sanctuaire. En même temps, Exode 20-24 ne disparaît pas de la Torah. Et il semble même, dans le contexte de l'époque perse ou hellénistique, légitimer l'existence de deux sanctuaires qui sont tous les deux des sanctuaires uniques, celui de Jérusalem et celui du mont Garizim. L'interprétation ne s'impose donc pas définitivement au texte interprété, mais lui laisse une certaine autonomie, ainsi aussi que la possibilité de l'interpréter différemment. Alors que le livre du Lévitique se conclut par cette idée « Tels sont les commandements que Yahvé prescrivait à Moïse pour les fils d'Israël sur le mont Sinaï », les livres suivants, les Nombres, s'ouvrent par « Yahvé parla à Moïse dans le désert, dans l'attente de la rencontre ». Cette rupture dans la localisation suggère que les préceptes qui sont énoncés maintenant dans les livres de Nombres ne sont plus au même niveau. Et comme on peut le voir dans la suite, les lois qui se trouvent, et ça je vais vous épargner ça parce que c'est un peu fastidieux, mais toutes les lois que nous avons dans les chapitres 5 à 9 du livre des Nombres vont beaucoup mieux dans des passages en fait des livres de l'Exode ou du Lévitique. C'est des ajouts, des interprétations des lois qu'on a en Exode et en Lévitique. Mais on ne les a pas mis avec Exode et Lévitique, on les a mis avec les Nombres. Donc ces exemples montrent que les livres de l'Exode, du Lévitique, mais peut-être aussi du Deutéronome, étaient déjà considérés comme étant clos, avaient une sorte de statut protocanonique, de sorte qu'il ne pouvait plus accueillir de nouveaux compléments à la Torah. Les prêtres et les scribes de la fin de l'époque perse ont donc créé le rouleau des Nombres pour pouvoir mettre par écrit des compléments qu'ils ne pouvaient plus insérer dans les autres rouleaux. Les textes, donc, en Nombres 5 à 9, ont été conçus comme une actualisation des autres collections législatives de la Torah. À cet égard, il est intéressant de noter que presque toutes ces actualisations sont introduites par « Yahvé dit à Moïse », sans qu'il soit précisé, comme ailleurs, que Moïse va mettre ses indications par écrit. En même temps, et je vais finir avec cela, les Nombres mettent en route une réflexion sur la nécessité d'une actualisation constante de la loi. Dans la dernière partie du livre des Nombres, on a une histoire assez intéressante. On trouve les filles d'un dénommé Tselophéade. Pour ceux qui cherchent un sujet de thèse, personne n'a compris qui est ce Tselophéade, mais peu nous importe. Ils se présentent devant Moïse et réclament de lui le droit d'héritage, parce qu'ils disent, en fait, notre père est mort, il n'a pas eu de descendants mâles, nous voulons hériter. Problème, cette situation n'est pas prévue dans la loi du Sinaï. Donc Moïse doit interroger Yahvé. Et Yahvé lui donne raison et dit que, tout à fait, les filles de Tselophéade, elles peuvent hériter. Et donc Moïse doit donc transmettre cette nouvelle loi. Très bien. Mais l'histoire n'est pas finie. Tout à la fin du livre, quelques chapitres plus loin, et c'est le dernier chapitre du livre des Nombres, et ça, ce n'est pas par hasard, à tout dernier chapitre du livre, cette nouvelle loi est contestée maintenant par des membres du clan de Tselophéade qui disent, va, si elle hérite et il se marie à l'extérieur du clan, bah oui, il va perdre nos terres. Qu'est-ce qu'il va faire, Moïse? Bah, Yahvé et Moïse acceptent cet argument et modifient alors la loi qu'ils viennent juste mettre en place quelques chapitres précédents. À savoir, les filles ne peuvent hériter du patrimoine à condition qu'elles se marient à l'intérieur de leur tribu. Il est d'ailleurs intéressant que ce texte ne parle pas explicitement d'une consultation de Yahvé par Moïse. Est-ce que la nouvelle interprétation de la loi mise en place au nombre 27 vaut en quelque sorte déjà une parole de Yahvé en 36. De toutes les façons, la nouvelle loi sur l'héritage des filles reçoit ici tout de suite une modification et ainsi le livre des nombres se termine par ce travail d'actualisation orale pour montrer la nécessité d'une interprétation constante de la loi. Et c'est ce principe herméneutique qui va en effet constituer la base même du judaïsme. Très brève conclusion, la distinction entre Torah écrite et Torah orale est née assez tôt dans le judaïsme à cause de la nécessité de compléter, de corriger le Pentateuque écrit. Le principe sous-jacent à cette idée se trouve cependant déjà dans plusieurs textes du Pentateuque naissant qui, de différentes manières, révèlent une interprétation souvent orale de la Torah qui finit elle-même par devenir une Torah écrite. Merci.